Le match est sur la ligne. Fleury est au banc. 6 contre 5. Tout le monde se lève encore ici. Cercle droit, Stone. Revient vers l'enclave. Passe coupée. Ça revient au cercle gauche. Le tir rate à la droite de Price. Il reste 10 secondes. Pietrangelo à la pointe droite. Passe à la pointe gauche. Theodore. Pietrangelo lance au cercle. C'est bloqué. L'arrêt est fait. Weber dégage. Rate le filet. Et c'est la fin. Le Canadien remporte la victoire. 3-2. Bonne nuit, Las Vegas.
Oh mon Dieu, Martin a failli perdre la voix. On était tous contents. Bonjour tout le monde. Je suis sûre que vous avez regardé le match hier. On y était, on était contents. Avez-vous remarqué à quel point c'est fascinant le nombre de Québécois qui sont à Vegas pour crier « Go, Habs, go ». Je pense qu'on a le vent dans les voiles, on a le cœur à la fête et sincèrement, ça fait du bien. Avez-vous remarqué à quel point tous les astres en ce moment là se conjuguent pour nous mettre de bonne humeur? Et j'espère que ce sera également l'effet qu'aura notre émission d'aujourd'hui sur vous. On aura la belle visite de Pierre Lavoie tout à l'heure. Vous savez que demain, Pierre Lavoie va vous proposer un autre grand défi. On va faire comme 1 million de kilomètres ensemble. Alors, peu importe comment, l'important, c'est de bouger. Pierre va nous dire plein de belles choses tout à l'heure. C'est toujours une espèce de pep talk, entre guillemets, là, de lui parler, une espèce de grand coup de fouet pour bouger, pour passer à l'action. On va également parler de votre prochain projet de terrasse ou de gazebo que vous avez peut-être reporté devant le prix du bois d'œuvre. Ben là, imaginez-vous donc que ça baisse. Et ça aussi, ça a tout pour nous enchanter. On va essayer d'expliquer pourquoi. On va surtout vous demander ce que vous en pensez, puis si ça va changer vos projets. Parce que beaucoup de gens là qui devaient rester ici, dont on doit rester ici. Vous avez vu la nouvelle, là, on n'est pas à veille de traverser la frontière, qui va rester fermée jusqu'à nouvel ordre encore pour plus longtemps que prévu. On nous a toujours pas annoncé quand, en juillet, il y aura peut-être levé de cette quarantaine à l'hôtel. En tout cas, pour le moment, ce qui concerne les voyages, ça va être entre nous autres au Québec. Remarquez, c'est une belle place, mais ça va être aussi peut-être dans votre cours si vous avez le choix, si vous avez la possibilité de vous faire une petite terrasse, de faire un petit pot de réno. Le prix du bois qui baisse, c'est une bonne nouvelle. Et puis, en première heure d'émission, ben, je vous propose tout de suite... Et là, je sais que vous allez m'haïr un petit peu. Pas tant, parce qu'on se quitte demain. Fait que j'espère que vous allez garder que des bons sentiments à mon endroit. Mais je peux vous le dire, ça fait 2 heures qu'avec l'équipe, nous avons ce ver d'oreille en tête.
Pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt. Je vous le dis, toute la journée. Toute la journée.
On roulerait pas si vite si on partait plus tôt. Pars plus tôt. On roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Gracieuseté de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Mario Vaillancourt est avec nous, porte-parole de la SAC. Bonjour Mario.
Bonjour à vous.
Il paraît que vous la chantez très très bien.
Ben vous aussi, en passant.
On peut la chanter ensemble, Mario. C'est Normand Gem, mon recherchiste, qui m'a dit que vous y aviez même chanté tantôt.
Ben oui, pars plus tôt. On ne roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Voilà.
Mais voilà, c'est
ça. Faut l'expliquer, là, Mario, là, maintenant que tout le monde va l'avoir dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle publicité de la SAC? Et là, je lisais ce matin que vous vouliez vous attaquer aux petits excès de vitesse, à la distraction, parce que vous relevez, puis le CAA le fait également ce matin avec un communiqué, vous relevez que l'été, au Québec, sur les routes, c'est toujours la période la plus meurtrière.
Oui, effectivement. Malheureusement, l'été, il y en a en longueur d'année, mais particulièrement pendant l'été, les accidents avec dommages corporels, décès, blessés graves, c'est souvent c'est toujours même dans la période de l'été. Et là, on arrive avec une campagne vitesse sous une forme humoristique, effectivement. Et ce qu'on veut faire, évidemment, c'est que les gens la gardent en tête. Je pense que ça, c'est réussi. Et qu'ils pensent, dans le fond, le message qu'on envoie, c'est que de respecter les limites et de débanaliser le petit excès de vitesse. C'est-à-dire que c'est souvent les gens ils vont penser qu'on va rouler 5 km de plus ou 7 ou 10. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Mais lors d'impact, par exemple, avec des usagers vulnérables, on pense aux piétons, aux cyclistes, motocyclistes aussi, on peut comprendre que 5 km de plus, là, ça peut faire toute une différence. Alors, c'est une campagne et on l'a vu dans le dernier bilan routier de 2020 avec la pandémie. Mmh. On a vu qu'il y a eu une surreprésentation de la vitesse dans des accidents qui ont fait des décès et des blessés graves. Alors, d'où l'importance là, de vraiment rappeler aux gens de faire attention. Et avec le message, on présente des situations où on dit aux gens, c'est pas le moment de rattraper le temps perdu en roulant après, là, parce que vous avez donné un bain à votre chien, puis là, vous êtes parti plus tard.
Ouais, mais il y a la question du temps qu'on s'alloue pour se rendre d'un point A à un point B. Mais pensez-vous véritablement que partir plus tôt, Mario Vaillancourt, ça fait vraiment la différence? Je pense à tous ces accidents meurtriers. Ouais. Si les gens étaient partis plus tôt, est-ce que ça aurait eu un impact sur l'issue de leur trajet?
Ben on veut lancer le message aux gens de planifier son départ, parce que souvent malheureusement c'est ce qui peut arriver. On part et on veut pas arriver 3 minutes en retard, puis là on se dit bon, on va rattraper les minutes qu'on n'a pas, on aurait pu partir un peu plus tôt, mais en même temps c'est sûr qu'il y a des gens qui vont partir au temps voulu, ils n'auront pas perdu de temps, mais ils vont quand même rouler vite. Mais je pense qu'il faut garder en tête que peu importe la situation, dépasser les limites de vitesse, c'est dangereux. Vous êtes les distances de freinage sont plus grandes, votre attention, vous captez moins d'informations autour de vous. Et c'est une des causes, malheureusement, là, c'est encore une des causes principales d'accidents au Québec et ailleurs, parce que...
La distraction, la distraction.
Oui, oui, la distraction, la vitesse, on parle de 32% à peu près là, qui est remarqué dans les rapports policiers. Ça veut dire quoi, ça, sur notre bilan routier? C'est à peu près 110 décès puis 400 blessés graves. Alors, c'est...
OK, mais ça, vous dites, c'est la distraction ou c'est la vitesse? C'est quoi la première cause, la principale cause?
La première cause, je vous dirais que la distraction est 35-36%, la vitesse à 32%. Mais il faut pas nécessairement les additionner. Il faut voir que c'est les causes les plus souvent mentionnées par les policiers. Mais oui, une fois sur trois, la vitesse est en cause, là. Alors, et c'est pas nécessairement de grands excès de vitesse. Souvent, ça peut être un petit excès de vitesse qui a fait en sorte que, par exemple, vous avez heurté un piéton et heurté un piéton à 30, 40 km/h, on devine facilement les dommages là, qui peuvent arriver.
Ouais. Est-ce qu'on a réussi à contrôler, vous diriez, Mario Vaillancourt, les grands excès de vitesse? On en est où au Québec en termes de grands excès de vitesse meurtriers? Là? Avec des récidivistes, là, le monde qui ne comprend pas, qui roule sans permis. Est-ce qu'avec toutes les campagnes que vous avez faites depuis les 20 dernières années, vous diriez, on a réussi finalement? Là?
Ben absolument. Je peux vous dire qu'au niveau des infractions vitesse, là, c'est l'infraction la plus souvent commise, là, c'est au Québec. Mais il faut dire cependant qu'il y a amélioration. Il y a amélioration parce que le nombre d'infractions globales au niveau des excès de vitesse d'une façon générale, et ça comprend les grands excès de vitesse, c'est en baisse. J'ai pas les chiffres devant les yeux, mais c'est en baisse, heureusement. Mais il y en a encore beaucoup trop parce que on l'a vu pendant la pandémie, on le voit régulièrement et les policiers font des opérations comme ils font dans ces jours-ci. Mais oui, il y a eu amélioration, un peu comme l'alcool au volant, par exemple, il y a amélioration, mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on le voit là, dans les chiffres, là, un accident sur trois, la vitesse est encore en cause.
Ah ouais. La vitesse, puis vous dites la distraction, c'est quasiment un peu les mêmes données, les mêmes chiffres, puis on s'en est parlé la dernière fois. Bon, la distraction, ça fait de plus en plus de gens d'ailleurs s'en rendent compte. Ils sont distraits. La pandémie, on s'en était parlé, Mario, au cours de la dernière année. La pandémie nous a rendu un peu plus, à force d'être dans sa bulle, on n'en sort pas. Puis quand on est au volant, c'est décuplé l'effet de la bulle. Hein. Et donc, les gens font toutes sortes de choses aussi. Puis quand vous dites partir plus tôt, moi, je veux bien, mais j'ai l'impression que plus on va jouer dans le trafic, partir plus tôt, on va juste rester plus longtemps pris. C'est un peu ça, finalement.
Oui, sauf que,
puis c'est là où on s'énerve peut... puis qu'on se frustre, là, vous comprenez?
Oui, je comprends, mais on peut rester peut-être plus longtemps dans le trafic, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus vite. C'est ça.
Non,
là.
C'est sûr.
Mais là,
plus la vitesse qui est en cause à ce moment-là. Ça devient la distraction. Ça devient.
Ça peut devenir.
Tu veux t'occuper dans ton auto, là, en attendant. Là.
Et on peut peut-être parler là, de courtoisie, de partage de route, parce qu'il ne faut pas perdre notre patience non plus. Mais vous savez, souvent, ces comportements-là, ils peuvent être ensemble. C'est-à-dire, comme vous dites, on peut être distrait et faire de la vitesse en même temps. Et parce qu'on est distrait, on fait de la vitesse.
Tout à fait.
Ce sont des comportements, évidemment, à ne pas avoir.
À proscrire, ben oui.
Mais on répète toujours, les gens pensent que conduire une auto, souvent, c'est... bon, c'est facile, mais c'est conduire une automobile, là, que ce soit en ville ou sur l'autoroute, ça demande toute notre attention. Et lorsque on ne respecte pas certains comportements comme ceux dont on parle ce matin, ben ça peut malheureusement provoquer des accidents.
Ouais, parlant d'accidents, évidemment, on a encore en tête l'accident de ces jeunes là, à Drummondville, les 5 jeunes qui étaient à bord de cette voiture. Toutes des personnes mineures avec un automobiliste de 17 ans qui a perdu le contrôle puis qui a percuté un arbre. À peu près tout le monde a été blessé, puis il y a même un jeune là, qui est mort. Ce genre d'accident, vous en craignez cet été? Vous craignez une recrudescence de ce genre d'accident routier mortel, et en particulier chez les jeunes, avec le déconfinement, Mario Vaillancourt?
Ben on espère que non, et c'est ce qu'on fait ensemble, c'est de la sensibilisation. Il faut en parler à nos jeunes, il faut en parler aux gens avec qui on vit. Mais si on parle des jeunes conducteurs, je pense qu'il faut aussi dire là qu'il y a eu amélioration dans les dernières années en termes d'implication dans les accidents, mais ils sont toujours surreprésentés si on calcule le nombre de détenteurs de permis versus le nombre d'accidents, il y a une surreprésentation qui est encore là.
Mais votre toune, parle plus tôt, là.
Oui.
Dans le quartier à tous les matins, parce que tu t'obstines encore à faire ton propre pain. Pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Les jeunes partent plus tôt. Pas sûr que ça les convainque.
Ben, on espère qu'ils vont quand même retenir le message de respecter les limites. Je comprends qu'il faut toujours voir dans un message ce qu'on veut passer comme message principal. Oui, là, on fait référence au fait que si vous partez plus tôt, c'est un peu comme quand on parle de fatigue au volant. On dit aux gens, planifiez, partez plus tôt, puis partez reposer. Ben là, on dit aux gens, si vous partez plus tôt, peut-être que vous n'aurez pas la tentation de rouler plus vite.
Allez-vous faire une campagne ciblée pour les jeunes cet été?
Ben, écoutez, ils font toujours partie des campagnes qu'on lance. Bon, évidemment, celle de la vitesse concerne tout le monde et principalement.
Mais les facultés affaiblies, l'alcool, le cannabis et autres substances, c'est documenté quand même, là.
Tout à fait. On en a en longueur d'année. On en a lancé dans les derniers mois et on revient évidemment. On va revenir. Là, je vous parle de fatigue parce qu'il y a une campagne qui s'en vient bientôt. On va
sur la fatigue au volant, ça, Mario?
Ouais. Oui, tout à fait. Ça s'en vient. Vous savez qu'avec les déplacements l'été, bon, on comprend, les vacances sont là et les gens vont se déplacer. Souvent, les gens, ils font de longues heures de route. Alors oui, on revient à la charge toujours avec ces comportements-là, mais comme on voit que les accidents mortels et avec des blessés graves, ça arrive plus souvent l'été. Alors, on met beaucoup d'efforts, et pas seulement dans des messages que vous voyez à la télé ou vous entendez à la radio, mais on est présent aussi dans les médias sociaux. Alors,
il y a beaucoup de gens qui réagissent. Je suis très contente que notre sujet intéresse nos auditeurs. Daniel écrit « Le cellulaire est interdit pour tous les automobilistes ». Bon, on le sait, là, le cellulaire au volant, ça fait partie des distractions là, qui causent des accidents. Et Daniel, il veut savoir, pour les cyclistes là, qui textent avec leur cellulaire, lui, il a eu une expérience malheureuse, il s'est fait rentrer dedans par un cycliste qui regardait son cellulaire et donc c'est un piéton à ce moment-là, Daniel, qui lui a cassé un doigt. Bref, il y a eu... Ils se sont percutés. Pour les cyclistes, là, puis je vous avoue qu'hier, à une intersection près de chez moi, il y a une piste cyclable où les cyclistes, peu importe qu'il y ait des voitures, pas de voitures, eux, ils roulent, ça roule, puis ils n'arrêtent pas. Puis je me disais, mon Dieu, qui va mettre un arrêt-stop là, pour les cyclistes qui fassent, dès qu'il y a une intersection, tout cycliste devrait être obligé de s'arrêter, peu importe s'il y a le droit ou pas le droit. Comprenez ce que je veux dire? Il faut... Parce qu'après ça, on va blâmer l'automobiliste, mais des fois, l'automobiliste, il peut juste pas le voir. Il y en a qui arrivent vite, là.
Ben le cycliste doit évidemment respecter les mêmes règles que le
Mais s'il n'y a pas de stop et qu'il continue, qu'est-ce qu'on fait? La loi dit quoi là-dessus?
Mais la loi dit que le cycliste doit s'arrêter aux arrêts, comme l'automobiliste, il doit rouler le plus possible à droite. Bon, les mêmes règles s'appliquent. Là, c'est pas parce que tu es sur un un vélo, par exemple, que tu peux ne pas arrêter aux arrêts, aux feux rouges, tout ça, là, ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais en même temps qu'on dit de faire attention aux usagers vulnérables que sont les cyclistes, évidemment, versus l'automobiliste, on dit aussi aux cyclistes de respecter aussi les règles. Ça va de soi. C'est toujours on parle toujours de responsabilité partagée.
Ouais.
Pour que chacun se respecte. Il faut pas qu'il y ait de rivalité entre les usagers, là. Et c'est sûr que le cycliste, lui, bon, s'il y a une collision avec une automobile à 30 km/h, on peut déduire que les dommages peuvent être plus importants chez le cycliste que chez l'automobiliste.
Ouais. Mario Vaillancourt, merci beaucoup. Porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec. On va poursuivre notre conversation. Je vais demander aux auditeurs, qu'est-ce qui vous frustre le plus au volant? Là, je peux vous dire, là, il y a toutes sortes de gens. Là. Beaucoup de gens parlent de l'état des routes. Ça, c'est clair. Les nids de poules à Montréal ou dans certaines villes, c'est un vrai problème. Il y a Catan qui me dit, je pars plus tôt, mais les travaux, des fois, ça me retarde. Je pars plus tôt, mais des fois, les contracteurs décident de mettre des cônes oranges avant l'ouverture du chantier. Je pars plus tôt, mais si les gens partent plus tôt comme moi, bonne chance, on va tous être poignés dans le trafic. Oh mon Dieu, je trouve ça très bon comme commentaire. Continuez de m'écrire isabelle@985fm.ca ou sur mon Messenger ou mon Facebook Isabelle Maréchal officielle. Vous pouvez m'appeler, bien sûr, je vais vous parler. Qu'est-ce qui vous frustre sur les routes en ce moment qui fait que qu'on a moins de patience? Alors, peut-être qu'on peut partir plus tôt, mais est-ce que ça va jouer ça sur vos nerfs, le fait de partir un petit peu à l'avance? Peut-être qu'on va être plus zen. C'est ça l'idée derrière cette campagne-là. On a compris, là, mais pas toujours facile. 514-790-9850. 1-866-790-9850. OK, tout le monde en cœur?
Pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt. Pars plus tôt, pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Mais je vous demande, qu'est-ce qui vous frustre le plus au volant avec le porte-parole de SAAC? On a parlé de beaucoup de choses. Il nous rappelait que la distraction et la vitesse d'abord, mais la distraction aussi presque de façon équivalente, sont des grandes responsables des accidents sur la route et qui font que souvent l'été au Québec, et c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça, c'est la période la plus meurtrière. Donc, il faut être prudent. On est plus fatigué au volant aussi. La fatigue, mais la frustration de toutes sortes qui nous amène à prendre des mauvaises décisions au volant. Rémi est avec nous. C'est un auditeur là, qui nous appelle et qui a eu une expérience très, très dramatique. Bonjour, Rémi.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute, Rémi.
Ben, on va faire ça vite. Dans le fond, j'avais 17 ans, j'étais passager, puis moi et mon ami, on avait vraiment les voitures sport, la vitesse, un impact à 200 km/h, ma ceinture, elle a coupé, le siège arraché, j'ai traversé la vitre, j'ai été déclaré paralysé à vie. Après un mois à l'hôpital, les orteils se sont mis à bouger, le reste est revenu, ils m'ont traité de miracle, littéralement, parce qu'ils n'ont aucune idée pourquoi c'est revenu. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, je sais pourquoi on m'a donné une deuxième chance, j'en profite, puis je peux aider le monde à pas subir ces dommages collatéraux-là, puis d'être écopé à vie, de pas toujours pouvoir faire ce qu'on veut, mais ce qu'on peut, bien, j'aimerais vraiment ça aider. Des fois, j'ai des bonnes idées d'annonces, des bonnes idées d'émissions qui feraient réagir, parce qu'il faut faire réagir les jeunes, il faut parler en jeunes, il faut parler en jeux vidéo. Les jeux, c'est un jeu, la route, c'est la route. Il faut pas mélanger les deux.
Puis vous, là, part plus tôt pour les jeunes, part plus tôt, ça dit quoi aux jeunes d'après vous?
Pars plus tôt, la route c'est pas un jeu vidéo, mais pars plus tôt, parce que la route c'est pas un jeu vidéo.
Eh hey, bien c'est bon ça, Rémi, c'est très bon ça.
La chance de même.
C'est très très bon. Eh hey, restez en onde, on va prendre vos coordonnées. Moi je trouve ça très intéressant, vous dites vous avez des propositions et tout. J'aimerais ça qu'on garde contact. Merci beaucoup Rémi de partager ce que vous avez vécu, merci bien. Agathe est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est un simple commentaire. Oui. On aurait beaucoup d'exemples. Moi, je suis chauffeur de van US et on fait beaucoup de Canada, beaucoup de Québec.
Oui.
On a plusieurs qui se parlent. Puis le commentaire qui se promène le plus, c'est un mélange de tout. Ce n'est pas juste la vitesse. Bon, vous donner un exemple. La semaine passée, je descendais une côte chargée. Il y a deux petites personnes en vacances qui sont venues en avant de moi. Ils ont freiné dans la côte pour me ralentir ma vitesse.
Ah, oui,
c'est ça constamment.
Mm.
Moi, je me dis, c'est pas juste la vitesse, c'est pas juste le téléphone, c'est un mélange de tout.
Ouais.
Les gens, il y a un mélange de gens qui sont en vacances, qui ont du temps, et de ceux qui travaillent, et nous, les poids lourds.
que... On est pris là-dedans, ben oui.
On est pris là-dedans. Là, puis là, après ça, ils viennent nous dire de ralentir notre vitesse. Ils nous suivent ouais. dans un truck stop pour nous faire signe de ralentir notre vitesse. C'est juste un mélange de tout. C'est que ceux qui sont en vacances devraient être conscients de ceux qui travaillent devraient être conscients de ceux qui sont en vacances. C'est de rester taper ouais, sur la vitesse des gens.
Mais justement, Agathe, bon, vous êtes chauffeur poids lourd. J'ai Guy qui m'écrit. Il dit, moi, ce qui me frustre, c'est les camions qui roulent toujours en excès de vitesse puis qui nous suivent de trop près. Qu'est-ce que vous répondez à Guy?
Oui, mais un, sur l'autoroute, on ne peut pas être en excès de vitesse, c'est impossible. Deux, sur les ondes de 90 ou de 70. Oui, on va rouler toujours un petit peu plus que la limite. Généralement, moi, ça fait 10 ans, là, une zone de 90, on va en rouler, exemple, 95. Mm. Une zone de 50, on va en rouler, exemple, 55. Mm. Ça, selon moi, c'est pas quelque chose qui est inacceptable. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Faut pas mettre tous les camionneurs dans le même bateau. Puis tous ceux qui sont en vacances dans le même bateau. Je me dis, chaque personne a le temps. Mais malheureusement, tout le monde doit travailler en équipe. Puis c'est pas ça qui se passe sur la route. Le monde travaille de façon individuelle.
Ben,
ça,
merci.
C'est mon commentaire.
Merci beaucoup, Agathe. Puis je pense qu'il y a Roger qui veut répondre à Agathe. Bonjour, Roger.
Oui, bonjour. Moi, là, elle vient me chercher quelque part parce que eux sont dangereux. Ils savent qu'ils sont gros. Ça roule 105, 110 sur la 640, ça a 13. C'est malade. Moi, j'en reviens pas. Moi, je dis qu'ils devraient couper ça à 90, les gros trucks. Parce que quand ils braquent eux autres, ils sont chargés. Ça pousse en maudit en arrière. J'ai une de mes filles qui est camionneuse. Mm. Puis elle-même l'a dit, on devrait nous mettre à 95. Parce que c'est malade. J'en reviens pas. Ils sont vraiment dangereux.
Mais vous savez pourquoi aussi c'est comme ça. À leur décharge, pour avoir déjà été impliqué dans une compagnie de transport familial, je peux vous dire que, bon, d'abord, il y a la question qu'ils transportent des matières premières que les consommateurs attendent. Et on se plaint tout le temps comme consommateur qu'on n'a pas ce qu'on veut quand on le veut. On veut les choses tout de suite. Alors, c'est une industrie, le transport routier, dont on dépend beaucoup. En plus, il y a la façon de payer aussi les transporteurs. Souvent, c'est plus tu transportes, puis plus tu fais de l'argent, plus tu arrives à gagner ta vie. Donc, il y a tout ça un peu. Si on voulait limiter les vitesses, si on voulait limiter la vitesse de toute cette industrie, ben il faudrait être conscient de tout ça. Donc, en même temps, je comprends. Mais comme automobiliste, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire, tu vois un camion, tosse-toi. Freine-y pas devant, tu sais, coupe-le pas. Moi, je me dis, tu sais, c'est au même titre, tu vois un piéton ou un cycliste, agis en conséquence. Hein? C'est un peu ça, j'ai l'impression. Merci, Roger, en tous les cas. Louise, bonjour.
Bonjour. Moi, j'arrive d'un voyage. Là, j'ai un campeur. Puis, sur la route, là, si on va à la limite permise ou 2 kilomètres plus bas, on se fait crier, faire des fingers. Les vannes nous dépassent et nous coupent tellement, tellement vite parce que les gens sont enragés au volant.
Ah, vous, vous dites c'est la rage au volant, ouais.
Ah, c'est la rage au volant si on ne va pas plus vite que la limite permise.
Oui, mais si vous êtes sur la ligne de gauche, on comprend que vous n'avez pas d'affaire là, OK?
Ah non, non, on est très, très adroit. Même quelquefois, on se tasse pour laisser dans des vraies petites routes rurales. Ouais. On se tasse pour laisser passer les gens qui nous suivent, mais nous allions à la bonne vitesse. Ah, mais oui. Ces gens-là viennent tellement enragés, là. On se fait hurler par les camions continuellement. On se fait suivre, là.
Ah oui, mon Dieu!
Là, on a un pied, puis s'il fallait qu'on ait un cycliste, que nous, il faut ralentir.
Ouais.
Quand on est prudent au volant, je vais vous dire que nous ne sommes pas, pour la majorité des gens, de bons chauffeurs. Mmh. Nous ne sommes que des pépères, des memères au volant, ouais. Des gens pas capables. On se fait dire, va-t'en chez vous de coucher.
Tasse-toi mon oncle, tasse-toi ma tante.
Tasse-toi ma tante. Puis ça dure, ça. On a remarqué ça, nous, mon mari et moi, depuis qu'il y avait eu les annonces de Volkswagen. Tasse-toi mon oncle. C'est incroyable. C'est épeurant au point que nous, on est après penser est-ce qu'on va continuer? Parce qu'il y a beaucoup, je dirais que dans un voyage de 4-5 heures, il y a au moins 2 fois qu'on est effrayé.
Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est pas surprenant. Il y a vraiment des gens...
L'autoroute qui dit 100, si tu t'en vas 100, ben là, c'est toi qui n'es pas capable, qui n'es pas correct. Ça ne fonctionne pas.
Mais si vous êtes sur la ligne de droite, Louise, sincèrement, si vous êtes sur la ligne de droite sur l'autoroute, vous dérangez personne. Si les gens trouvent que vous n'allez pas assez vite puis qu'eux veulent dépasser la limite de la vitesse, ben ils vont sur la ligne de gauche. C'est plus là, j'ai beaucoup de courriels de gens qui me disent c'est ceux qui sont sur la voie de gauche puis qui restent là, qui empêchent les autres de rouler. Linda m'écrit ça. Ça la frustre beaucoup. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va revenir avec le directeur de la Fondation du CA Québec pour la sécurité routière. Éric Lamontagne, avocat spécialisé en infraction routière, va être là également. Si vous avez des questions pour mettre Lamontagne, ce sera le moment également de lui poser. 514-790-9850 1-866-790-9850. Je veux savoir ce qui vous frustre le plus sur la route. Personne ne m'a parlé des cônes oranges. Est-ce un oubli de votre part? À tout de suite, tout le monde. Marco Harrison est directeur de la Fondation CA Québec pour la sécurité routière. Bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
Et Maître Éric Lamontagne est avocat spécialisé en infraction routière. Merci d'être là, Maître Lamontagne.
Merci, Isabelle.
Bon, je vais vous entendre tous les deux là, sur cette campagne, mais évidemment, bon, la Fondation CA, vous en profitez de cette campagne de la SAC, M. Harrison, pour rappeler là, que effectivement, au Québec, l'été, c'est assez dramatique sur nos routes. Là.
Oui, effectivement. Historiquement, là, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail, là, c'est la période la plus meurtrière sur les routes du Québec. De l'année 2020, l'an passé, malgré le fait qu'on était dans une situation particulière avec tout ce qui entraînait autour du coronavirus, on a quand même eu près de 30 % des 340 décès, là, 98 pour être plus exact, qui ont eu lieu pendant ces 75 jours-là.
Donc, un décès sur trois sur nos routes a lieu l'été. C'est pas la première fois qu'on essaie là, de convaincre les automobilistes de freiner, pas conduire avec des facultés affaiblies, de ne pas prendre de mauvaises décisions en ce qui concerne la distraction, de pas être fatigué non plus. Si t'es fatigué, prends pas le volant. Là, on nous dit pars plus tôt. Bon, on nous a tout dit quasiment finalement, mettre la montagne. As-tu l'impression, Éric, là, qu'à un moment donné, on prend le volant, puis on en fait qu'à notre tête, comme automobiliste, et en particulier l'été.
Oui, je pense que les gens ont beaucoup de difficultés à se projeter dans un scénario possible. On pense pas à ça. Là, particulièrement, on a un cocktail qui risquerait d'être un peu, je vais dire, prendre l'expression mortelle, là, sans faire de mauvais jeu de mots, ouais. Avec la fin de la pandémie, les choses qui commencent à être ouvertes partout, les gens commencent à sortir. Les gens vont commencer à consommer. Et tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est si mortel que ça. On parle de la vitesse, on parle de la distraction, on parle de l'état de nos routes, on parle aussi de l'état des voitures, des jeunes aussi, souvent, faut le dire, ouais. Et même des moins jeunes. Et quand on rajoute, en plus de ça, alcool et ou drogue, ça devient très, très mortel comme mix, là.
Oui, effectivement. Est-ce qu'on a tout dit, monsieur? Là, les façons de le dire, Marco Harrison, on essaie de les varier. C'est pour ça que je trouvais ça amusant ce matin. Part plus tôt, on veut bien, là, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du message.
Non, Mme Maréchal, on n'est pas arrivé au bout du message, mais en sécurité routière, il y a une chose qui est très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut constamment répéter les messages de prévention, de sensibilisation, puis il ne faut pas baisser la garde. Mm-hmm. Je vous rappellerai qu'il y a deux semaines, on fêtait les 45 ans de l'obligation pour les passagers avant d'une voiture de porter la ceinture de sécurité.
Ouais, puis les gens la portent pas.
45 ans, on penserait que c'est vraiment ancré dans les mœurs des personnes maintenant de porter la ceinture. Pourtant, quand on regarde le bilan 2020, le nombre de conducteurs et de passagers décédés, la proportion est passée de 20,9 qu'elle était en 2019 à 34,6 en 2020.
C'est incroyable, pareil.
À mon avis personnel comme expert, c'est un non-sens.
Ouais.
C'est un non-sens. Le seul fait de boucler sa ceinture en montant à bord d'un véhicule, si tout le monde le faisait, statistiquement, c'est démontré qu'on sauverait 35 vies par année sur les routes au Québec.
Mais pourquoi les gens le font pas? C'est pas parce qu'on l'a pas dit?
Écoutez, j'en reviens à mon premier message. En sécurité routière, il faut répéter les messages de sensibilisation, de prévention et surtout pas baisser la garde.
Puis à un moment, mettre la montagne, je vous entends là-dessus, parce que toi, Éric, t'en vois régulièrement, là, c'est ce que tu fais au quotidien, là, des infractions routières. Ton expérience te dit que c'est quoi là où le bas blesse en ce moment, là, c'est où exactement?
Bon, principalement, je veux évidemment pas attaquer le message parce que c'est très important comme message, c'est clair, mais je peux juste donner un exemple. Pars plus tôt. Ben, part plus tôt, ça s'applique pas à ceux qui partent en retard, mais ceux qui partent en retard, c'est eux autres qui sont dangereux sur les routes. Mm. Donc, à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est comme si là, on dit, la prochaine fois, essaye de partir plus tôt. Mais c'est que les gens qui vont adopter un comportement de vitesse, souvent, ce sont des gens, justement, qui ne seront pas partis plus tôt. Alors, ces gens-là ne sont pas vraiment nécessairement rejoints par ça. Et ce que je trouve le plus important, on peut sensibiliser tant qu'on veut. Et je pense que oui, effectivement, pour certaines personnes, ça va frapper fort. Voir une publicité comme ça, ça nous fait réaliser les dangers réels là, de ce qui peut arriver si je ne fais pas attention et qui nous rapporte peut-être à des comportements qu'on a déjà eus dans le passé et qui auraient pu donner des conséquences comme ça. Mais la présence policière, c'est de loin ce qui est le plus efficace sur la route.
Ah ouais, c'est ça. Policière. Ah ouais, c'est ça. Si on voit une voiture de police, là, on lâche le pied.
Automatiquement, parce que ces gens-là, malheureusement, et c'est ça qui est triste, là, ils sont moins affectés par des publicités comme ça que par la police qui les arrête et qui partent avec leur voiture. Ça, là, ça c'est quelque chose qui vient chercher ces gens-là. Quand je reçois des appels, ça n'a pas de sens. J'ai reçu un grand excès de vitesse. J'ai 14 points. J'ai 1000 quelques dollars. Ça, les gens sont impressionnés beaucoup par la conséquence d'une vitesse. Mm-hmm. Mais vous voyez, ce qui est un peu ironique, c'est que cette conséquence-là est mineure, considérant qu'ils auraient pu mourir ou tuer quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qui est les gens, la présence policière, c'est ce qu'il y a de plus puissant.
Mmh. Écoute, j'ai beaucoup, à tous les deux, là, j'ai beaucoup, beaucoup de courriels qui rentrent et qui parlent des cyclistes. Et j'ai même des gens là, qui m'ont copié des grandes lignes du bilan 2020 là, des accidents de la route, où finalement, ce qu'on nous dit, puis M. Harrison pourra sans doute confirmer, on nous dit qu'au niveau des les grandes lignes, là, 340 personnes sont décédées sur nos routes, 9 de plus qu'en 2019. On a beaucoup attribué ça au fait, hein, M. Harrison, entre autres, là, que peut-être la pandémie en 2020, au moment où ça a comme déconfiné l'été dernier, ça avait fait en sorte que ça avait joué là, sur le nombre de décès sur les routes. Mais ça reste tout de même une baisse de 2,2% par rapport à la moyenne 2015-2019. On nous disait aussi que chez les 15-24 ans, ça avait diminué, que chez les 75 ans, ça avait diminué. Et là où ça augmente, c'est les motocyclistes et les cyclistes. Et là, les cyclistes, là, c'est même 75% d'augmentation là, de cyclistes qui ont été blessés par rapport à 2019. Beaucoup de gens me disent, les cyclistes, là, c'est une plaie sur les routes. Il faut croire que c'est des automobilistes qui m'écrivent, mais bon. Comment vous voyez ça, vous, Marco Harrison?
Ben, ce qui est intéressant, Mme Maréchal, oui, effectivement, dans ces deux catégories-là, en 2020, il y a eu une augmentation des décès. Motocyclistes, retenons à l'an passé, là, beaucoup de gens se sont dit, ben je peux pas aller en vacances aux États-Unis, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Hey, je pense que je vais m'acheter une moto.
C'est ça. Mm-hmm.
Il y en a beaucoup qui se sont achetés une moto, puis ils ont commencé ou se sont remis à faire de la moto. Donc, on avait des gens peut-être un petit peu moins habitués. Puis, le même phénomène au niveau du déplacement actif, hein. Comment vous avez vu des gens qui sont devenus piétons ou cyclistes, mm-hmm, au lieu d'être automobilistes à cause de la pandémie. Donc, on a eu un regain aussi de ce côté-là. Il y avait des endroits où on n'était même plus capable de se trouver de vélo si on voulait s'acheter un vélo. Là.
Oui.
Donc, plus d'utilisateurs, peut-être plus de gens qui avaient moins l'habitude de ce moyen de déplacement-là, un peu moins d'expérience. Ça pourrait expliquer qu'il y a eu une augmentation.
Et les cyclistes, j'ai hâte de vous entendre sur qu'est-ce qui fait que les cyclistes, est-ce que ça se peut que les cyclistes soient téméraires et pensent qu'ils ont la route à eux? Est-ce que ça se peut, ça?
Moi, je vous ramènerais plus au fait qu'il faut apprendre en tant qu'usager, peu importe quel type d'usager de la route on est, à partager la route avec les autres.
Mais si on le connaît, ce message-là,
souvent,
ouais,
j'écoutais vos intervenants là, avant, ouais, d'entrer en onde. Mm-hmm. Puis, tu sais, souvent, les interventions des gens, ça revient toujours à c'est pas moi, c'est la faute de l'autre.
Mm-hmm.
Alors que si on le regarde d'une autre façon, dans une optique de partager la route tous ensemble, ben c'est plus ça qu'on va avoir comme message. Hein. Puis les gens doivent mieux partager la route et c'est la clé du succès. Oui, il y a
mais
probablement
pour les cyclistes, qu'est-ce qu'on fait? Les cyclistes, c'est pas rien, là. C'est la plus grande augmentation de personnes blessées, là.
Oui.
Il faut que ça arrête.
Il y a beaucoup plus de gens qui utilisent le vélo pour se déplacer depuis le début de la pandémie.
Ouais, mais à quand une campagne ciblée pour les cyclistes? Là, c'est ce que les gens demandent.
Ça, je ne sais pas. L'avez-vous demandé à M. Vaillancourt?
J'ai essayé de l'amener là, mais il aurait fallu qu'on ait un gros 5 minutes de plus. Mais lui m'amène un peu à ce que vous me dites, c'est-à-dire que tout le monde doit partager la route. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment une campagne ciblée cycliste. Là. Vous, évidemment, vous êtes le CAA, vous parlez, vous occupez d'auto, mais je pense que ça concerne aussi le CAA en partie. Éric, comment tu vois ça comme avocat au niveau des cyclistes? Ton opinion là-dessus?
Ouais, ça, je vais te dire honnêtement, je partage l'opinion de bien des gens. C'est compliqué souvent avec des cyclistes. Non, pas le, c'est pas une question de jeter le blâme, là. Mais, tu sais, ce sont des belles paroles de dire qu'on doit tous partager la route. On est au courant qu'on doit tous partager la route. Il y a des gens qui, peut-être, l'appliquent un peu moins dans le quotidien. Mais il n'en demande pas moins que chaque personne a un rôle à jouer quant à la sécurité routière.
Ouais.
Que tu sois en vélo, que tu sois à pied, en voiture. Mais force est d'admettre que là, on est rendu trottinette, skateboard, là, en ville, ça devient complètement fou. Mm. Les gens hésitent, ça crée beaucoup d'hésitation dans ce contexte-là. Quand il y a des hésitations, souvent, il y a des accrochages, il peut arriver des situations. Encore là, moi, ce que je vais plutôt dire, la présence policière encore, faire des opérations pour les cyclistes, par exemple.
Ouais.
Que des policiers soient là, avec leur calepin de contravention, s'ils sont dans une situation, il va falloir, quelque part, réaliser que je comprends que quand on est en vélo, évidemment, on s'attend à ce que les automobilistes et les motocyclistes fassent attention à nous. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui prennent pour acquis ce message-là des fois aussi. Puis il faut faire attention.
Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Marco Harrison, directeur de la Fondation du CAA Québec pour la sécurité routière. Maître Éric Lamontagne est avocat spécialisé en infraction routière. Merci à tous les deux. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va parler à un atténuateur d'impact. Vous allez dire que c'est ça? Mais on va tout vous dire après la pause.
Oublier ses clés dans le vestibule.
Se couper un tout petit ridicule.
Être encore en pyjama à 9h-10. C'est pas des raisons pour rouler au-dessus des limites. Pars plus tôt, on roulerait pas si vite si on partait plus tôt.
Je veux saluer le travail quand même de la pub de LG2, compagnie québécoise bien connue, parce que ce verre d'oreille va nous accompagner. Et puis l'idée, c'est d'avoir un message un peu plus positif que les fameuses publicités qu'on a déjà eues à une certaine époque et qui ne sont pas forcément avérées payantes parce que on était tous... Vous savez, les gens là, qui sont ensanglantés dans un véhicule, ça, c'est documenté, ça fait pas forcément l'effet désiré. Donc là, au moins, ben, on va un peu en rire, puis ça nous permet d'en discuter avec vous ce matin. Richard est là, c'est un travail, j'ai jamais entendu ça comme job, Richard, vous êtes, ça c'est votre description de tâche, vous êtes atténuateur d'impact. Bonjour, merci d'être là. Quel est votre travail?
Mon ouvrage, c'est de protéger les employés qui travaillent sur les autoroutes.
Oui, mais c'est tout un travail. De quelle façon vous le faites, atténuer l'impact?
C'est mais le job, ça le dit, c'est moi qui ai payé pour se faire entrer dedans pour protéger le monde qui va être en sécurité l'autre bord du camion.
Êtes-vous sérieux?
Oui.
Et ça marche comment, ça?
Bien, le camion, il est fait en conséquence qu'un véhicule de format moyen, comme un F-150, peut me rentrer dedans, disons, à 120 km/h, puis mon camion bougera quasiment pas de ce qui est, puis il va absorber l'impact du camion pour protéger le monde qui est dans le camion en même temps.
OK. Donc, vous, dans quel contexte on vous engage comme atténuateur d'impact? C'est sur les chantiers de construction? C'est sur les autoroutes? Expliquez-moi.
Sur toutes les autoroutes du Québec en haut de 90 km/h sont obligées d'avoir un atténuateur d'impact qui protège les employés qui travailleraient en bordure de la route ou dans une voie qui est fermée. Mettons qu'il y a 3 voies sur une autoroute. Il y a une voie qui est fermée pour les réparations.
Ouais.
Bien, il y a un alternateur d'impact qui est en avant de tout ça pour protéger le monde qui travaille.
Incroyable. Combien de fois vous faites frapper ou rentrer dedans dans une année, mettons?
C'est aléatoire. L'année passée, c'est arrivé 3 fois.
Ouais.
Cette année, je vais toucher du bois, c'est pas encore arrivé.
OK.
Il faut dire qu'il y a moins de monde sur la route cette année, des fois, là, mais...
Et quand ça arrive, là, vous dites, c'est mon camion ne bougera pas, mais c'est quoi que vous avez comme camion?
Ben moi, je suis... ma compagnie, sont corrects, ils m'ont fourni un Volvo 12 roues qui pèse environ 7,4 tonnes okay. avec la pesanteur dessus pour pouvoir arrêter des plus gros véhicules.
OK. Et quand ça frappe, là, les trois fois l'année dernière, vous ressentez quand même le contre-coup, là, quand même, même si vous êtes dans un plus de 7 tonnes 12 roues, est-ce que vous ressentez quelque chose?
Ben,
ou ça bouge pas dans votre
ça
bois?
Ça bouge un peu, là, mais pas tant que ça.
Et qu'est-ce que vous vous dites? Bon, un innocent qui vient de me frapper, qu'est-ce qui vous
Exactement.
Passe?
Exactement. Il y en a un l'année passée qui m'est rentré dedans avec un F-150.
Aïe, aïe, aïe.
OK.
À combien, d'après vous, qui roulait?
Il s'en venait à peu près à 75-80. Il m'a dit, c'était la nuit, qu'il m'a pas vu puis il était distrait.
Imaginez si ça avait été des travailleurs là, qui travaillaient sur le chantier à ce moment-là.
Vous c'est ça. Il est ramassé tout.
Incroyable. Ben, ça, avec vous, vous envoyez de toutes les couleurs. C'est intéressant. Atténuateur d'impact, quand on va vous voir, on saura à quoi vous servez. Merci beaucoup, Richard, de nous avoir appelés. Merci à tout le monde. Et, sincèrement, on pourrait continuer toute la journée à se parler de ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça vous intéresse parce qu'on est tous, à un moment donné, avec un volant dans les mains. Alors, on se calme. On peut partir plus tôt. Il y en a qui me disent, on n'est pas tous Paul Arcand, là, pour se lever à 3 heures du matin. Non, mais bon, on garde ça en tête. On se retrouve après les nouvelles.